Bien, très heureux de me retrouver dans un lieu que j'ai beaucoup fréquenté, aimé, par El Monial, particulièrement en ce jour où nous vénérons le Sacré-Cœur. Ce que je veux vous proposer dans le temps qui m'est imparti, c'est un itinéraire que nous allons suivre sur les traces du disciple bien-aimé. On voit dans l'Évangile apparaître ce personnage, le disciple que Jésus aimait. Alors, il y a plusieurs interprétations qui sont données. Est-ce que c'est l'apôtre Jean? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, qui fait l'objet de réflexions d'exégètes. Je vais plutôt simplement, en serrant de près le texte de l'Évangile de Jean, me mettre à l'école de celui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus et à travers les 5 étapes dont il est question dans l'Évangile, essayer en le suivant d'approfondir notre relation avec le cœur du Christ. Je commencerai par quelques mots du pape François dans la bulle d'indiction de cette année jubilaire. Au cours de ce jubilé, dit le pape, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. L'Église, poursuit le pape, ressent fortement l'urgence d'annoncer la miséricorde de Dieu. Oui, donc 5 tableaux que je vais vous inviter à découvrir pour accueillir la miséricorde du Seigneur qui s'exprime par ce cœur du Christ que nous contemplons ici à El Monial. Le premier tableau, premier moment où l'on parle du disciple bien-aimé, c'est à l'occasion de l'inauguration de l'Eucharistie, la Sainte Cène, au chapitre 13. Jésus lave les pieds de ses disciples au cours de ce repas. Et je cite le texte. Au cours donc de ce repas, il annonce que l'un d'entre eux le trahira. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, dit Saint Jean, se trouvait à la table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et il lui dit « Demande, quel est celui dont il parle ?» Celui-ci se pencha alors vers la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Et il la donnera à Judas. Une scène de repas, comme tant d'autres. Quand on regarde l'évangile de Jean, on voit qu'il est structuré, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, par 5 repas. La structure de l'évangile de Jean, c'est 5 repas. Alors le premier repas, c'est le repas à Cana, un repas de fête, au chapitre 2 de l'évangile. Le deuxième repas, c'est au chapitre 6 de l'évangile de Jean, c'est la multiplication des pains. Le troisième repas, c'est Béthanie, c'est au chapitre 12. Et puis, il y a la Sainte Cène, chapitre 13, et puis on verra tout à l'heure le repas au bord du lac de Tibériade. Eh bien, cette scène se passe à l'intérieur, à l'occasion d'un repas. Le repas, c'est bien sûr un moment privilégié pour se sustenter, mais c'est aussi autour de repas que se construit une fraternité. Nous le voyons très bien dans notre vie de famille, bien comment les repas, souvent ritualisés, sont l'occasion, à travers le partage de la nourriture, de pouvoir aussi partager entre nous. Au cours d'un repas, sauf quand ce sont des repas un peu de représentation sociale, mais en général, d'une manière habituelle, les repas, c'est l'occasion de pouvoir se mieux connaître dans un moment de gratuité, d'amitié. Ici, c'est un repas particulier, c'est un repas mémorial. le repas de la Pâque. On voit non seulement, j'ai parlé des repas qui structurent le Nouveau Testament, mais l'histoire du salut est marquée par des repas. Comme le disait un gamin, on a beaucoup bouffé dans l'Écriture. Oui, l'histoire commence par un repas mortel, hein, dans le livre de la Genèse. Comme disait ce même enfant, une pomme, deux poires et des pépins. L'histoire de la création. Et puis, il y a les repas, il est tout au cours de l'Ancien Testament, qui sont des repas d'alliance, bien sûr avec Abraham, bien sûr avec Moïse, hein, le repas pascal. Et puis, l'Écriture s'achève par un repas, le souper des noces de l'agneau, où nous serons avec le Seigneur face à face. Donc, c'est un repas ici mémorial qui est célébré, hein, en mémoire de la Pâque, de la traversée de la mer Rouge par le peuple hébreu. Et Jésus inaugure sa Pâque, inaugure son passage vers le Père qui se produira juste après ce repas par la Passion, sa mort et sa résurrection. Jésus, comme il l'a dit lui-même dans l'Évangile, se donne lui-même en nourriture. Donc il y a une forte charge personnelle, ce n'est pas un repas qui nous serait simple, qui serait un peu extérieur, hein, pour vivre un moment festif, un moment grave, mais c'est quelque chose de plus substantiel que Jésus veut donner à vivre à ses disciples. Et c'est en même temps, souligne l'évangile de Jean, une scène d'intimité. Le disciple bien-aimé, au cours de ce repas mémoriel, se penche sur la poitrine de Jésus pour accueillir en cette intimité, une confidence. Très intéressant de voir comment ce repas, au cours de ce repas, cette scène que l'iconographie a beaucoup représentée de ce disciple bien-aimé, qu'on pense être Jean, se met sur la poitrine de Jésus pour accueillir à la fois l'intensité de son amour, dans un cœur à cœur, et en même temps le drame de l'amour, le bouleversement. Dans l'Évangile, au chapitre 13, l'Évangile parle du trouble de Jésus. Jésus fut troublé en son esprit, c'est au verset 21. Eh bien, dans cette scène, il y a ce double aspect de ce disciple bien-aimé qui accueille l'amour infini que Dieu a pour l'humanité et en même temps le trouble, l'angoisse qui le saisit. D'autant plus qu'il se penche sur la poitrine au moment où Jésus accomplit au cœur de la communion fraternelle qui rassemble les disciples un geste qui est un geste qui tend à Judas la bouchée de pain. Et au cœur de la communion, il y a l'émoi, déjà le signe de la trahison. Et Judas s'enfoncera dans la nuit. Le cœur de Dieu voit la misère et il bat à partir de cet émoi. Ce que je soulignerais dans cette scène d'intimité, dans ce cœur à cœur entre le disciple bien-aimé et Jésus, c'est le silence. Le disciple ne dit rien. Il n'y a pas de parole, simplement un contact tactile, en quelque sorte, entre le disciple bien-aimé et Jésus. Vous savez, pour traduire la miséricorde, pour entrer dans le mystère du cœur, nos mots sont souvent débiles. Et parfois, les silences sont plus éloquents que les mots. Je pense à ce proverbe touareg qui dit « Si le mot que tu vas prononcer est moins important que le silence que tu vas quitter, alors tais-toi. » C'est le pape François, dans cette bulle d'indiction, Misericordiae Vultus, qu'il a écrite, disait que le langage de la miséricorde est fait de gestes et d'attitudes avant toute parole. Place du geste. Oui, j'ai visité l'autre jour une petite école dans mon diocèse et il y avait un enfant, c'était un enfant qui semblait plutôt motivé, il avait un chapelet dans sa main. Et puis, quand il s'approchait de moi, il m'a regardé, il n'a rien dit, il a pris son chapelet et me l'a mis dans ma main. Voilà. Il y a des gestes silencieux qui en disent beaucoup plus que des tas de paroles, que des tas de discours. C'est dans ce cœur à cœur entre le disciple bien-aimé et Jésus une plénitude de présence. Vous voyez, le silence est différent du mutisme. Le mutisme, c'est quand on n'a rien à dire. Le silence, c'est quand on a trop à dire. Et donc simplement d'être là. Seule la présence compte. C'est une présence de la part du disciple bien-aimé, d'adoration, de communion au mystère du Christ, et je pourrais dire même de participation à son angoisse, à son trouble. Et c'est ce qui fera que le disciple bien-aimé, on dirait capté cette angoisse, ira jusqu'au bout, jusqu'à la croix, alors que les autres disciples ont déserté, ont fui, ont trahi ou ont renié, comme Pierre. Finalement, être chrétien, et c'est là le premier enseignement de cette première séquence, de ce premier tableau, c'est passer du face-à-face au cœur à cœur, à l'adoration. Se blottir contre le cœur du Christ pour déposer ce dont notre cœur est trop chargé et pour entrer dans le cœur de Dieu qui se saisit avec angoisse en sa passion du mystère du mal, du mystère du péché de l'homme qui s'écarte de lui. Deuxième tableau, c'est-à-dire le deuxième moment où dans l'évangile de Jean, on va parler du disciple bien-aimé. C'est quelques chapitres après, nous nous retrouvons de l'inauguration de la scène à la croix, à la crucifixion. C'est au chapitre 19. On passe, je dirais, de la compassion, adoration, compassion, à la contemplation. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Chapitre donc 19, verset 25. Oui, Jésus est crucifié. La croix est à la fois le signe de l'attachement à Dieu, jusqu'où va l'amour, jusqu'à la perte de soi, et le signe de l'arrachement à soi, jusqu'à la perte de soi-même. La croix, c'est une alliance dans sa dimension verticale entre le ciel et la terre, mais aussi parce que elle a aussi une dimension horizontale, les bras du Christ veulent se saisir de toute l'humanité, depuis le commencement jusqu'à la fin. Embrasser tout l'univers. Notre péché va contraindre Dieu à se dévoiler. Et la nudité du Christ, c'est en quelque sorte le dévoilement du Christ, le dévoilement de Dieu qui veut en son amour manifester jusqu'où il nous aime. Et en même temps, c'est une surabondance. Dieu s'empare de nos péchés pour faire une œuvre nouvelle. On peut dire que la croix, c'est l'inverse du déluge. Le déluge, c'est ce moment, on trouve dans le livre de la Genèse, où on voulait faire table rase. mais dire dans sa miséricorde, Dieu fait grâce. Et ce déluge se termine par un arc-en-ciel, Dieu promet de ne plus détruire. Et Dieu va apporter une réponse cinglante et sanglante au déluge. C'est que par rapport au mal, il va s'impliquer lui-même par l'incarnation, par la rédemption. Dieu surenchérit. C'est vraiment la croix, le lieu de la miséricorde. C'est le rendez-vous de la miséricorde. Et l'on voit d'ailleurs qu'au pied de la croix, il y a deux figures de personnes qui ont été particulièrement miséricordiées. C'est Marie-Madeleine. J'y suis particulièrement attaché puisque dans mon diocèse, il y a le sanctuaire de la Sainte-Baume de Saint-Maximin où l'on vénère la présence, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, le bon larron. Deux figures de miséricorde qui se rassemblent au pied, qui se rassemblent à la croix. Une qui est au pied de la croix et le bon larron qui est sur la croix. Comme disait Saint-Augustin, il a tout volé dans sa vie, même le paradis sur la croix. Eh bien, ce moment privilégié du disciple bien-aimé va être, je dirais, le passage du cœur à cœur. J'ai dit tout à l'heure, c'est passer du face à face au cœur à cœur, être disciple. Mais à l'intérieur de ce cœur à cœur, entrer dans le cœur de Jésus. Il va contempler ce disciple bien-aimé à travers cette lance du centurion qui transperce le côté du Christ. Il va contempler des fleuves d'eau vive, pour reprendre une expression de l'Ancien Testament, de l'eau et du sang qui s'écoulent du côté. Le disciple bien-aimé reçoit, avant ce passage du transpercement du cœur de Jésus, il va recevoir une parole de Jésus. « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. » Je dirais qu'il y a deux aspects dans l'Église. Il y a l'aspect de l'Église qui reçoit tout du Christ. C'est la dimension mariale, j'allais dire, de l'Église. Marie, elle se reçoit de son fils, elle reçoit son fils, le fruit béni de ses entrailles, comme un cadeau de Dieu à travers son fiat. Donc l'Église, elle est continuellement dans la réception de ce que le Seigneur lui donne. Elle reçoit Jésus. Et en même temps, l'Église, elle donne Jésus. C'est la dimension ministérielle, apostolique, sacramentelle. Elle reçoit la vie et elle la donne. Mais ces deux aspects de l'Église sont présents au pied de la croix. À travers ces deux figures, Marie, qui continue de dire un oui silencieux au pied de Jésus, et le disciple bien-aimé, qui a été choisi par Jésus, qui est demeuré fidèle et qui est comme une représentation de cette dimension apostolique, ministérielle de l'Église. Et bien, c'est au cœur, je dirais, de cette scène de la crucifixion que le disciple bien-aimé assiste au transpercement du côté de Jésus et du jaillissement de l'eau et le sang qui sont bien sûr, suivant la tradition qu'ont rappelé les pères de l'Église, le signe du baptême et de l'Eucharistie. L'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. De cette blessure jaillit les sacrements de l'Église. De la même manière qu'au début de la création du monde, eh bien, le livre de la Genèse nous montre qu'Ève qui est tirée du côté de Jésus. Et peut dire que l'Église est conçue du côté de Jésus à travers ces deux figures. Donc passer du cœur à cœur, c'était le tableau précédent, là, une démarche qui consiste à passer, je dirais, du corps à corps, accueillir l'Église, corps du Christ. Du cœur, on comprend le mystère de l'Église, la beauté de l'Église, la fécondité de l'Église, à travers le sacrifice de la mort de Jésus, qui en paye le prix, en se positionnant, en se postant comme le disciple bien-aimé au pied de la croix. La vie jaillit de nos blessures, comme la fécondité de l'Église jaillira des blessures de Jésus crucifié. Troisième tableau. On retrouve le mot « disciple » que Jésus aimait, ou « disciple bien-aimé », juste après cette scène. C'est le chapitre 20 de l'Évangile de Jean. C'est la scène de la résurrection. On pourrait dire que, ayant vécu un cœur à cœur avec le Christ, ayant accueilli de ce cœur le mystère de l'Église, le disciple bien-aimé va être amené à accueillir la foi. On va le voir. C'est l'apparition, à ce chapitre 20 qui commence, c'est l'apparition par Marie de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Et qu'est-ce que fait Marie-Madeleine ? Elle alerte vite les apôtres. Il est ressuscité. Elle l'a vu ressusciter. Alors Pierre et Jean courent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, le disciple bien-aimé, plus rapide que Pierre, le devança à la course. Et il arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il vit les linges gisant à terre ainsi que le suaire qui avait recouvert la tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors aussi l'autre disciple bien-aimé, arrivé le premier au tombeau, entra, il vit et il crut. Il vit et il crut. La course des deux apôtres traduit le zèle, l'empressement, la joie aussi. On vient leur annoncer, oui, il n'est pas mort, Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, c'est Marie-Madeleine. Et du même entrain qu'elle a pu courir pour annoncer la bonne nouvelle aux apôtres, on appelle d'ailleurs l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, du même entrain, eh bien, Jean et Pierre s'en vont vite au tombeau. Petite chose qui me semble pas simplement un détail, mais une grande signification. Le disciple bien-aimé laisse arriver Pierre, le premier des apôtres. On peut dire que là, il y a aussi quelque chose qui est lié à la figure du disciple bien-aimé. C'est l'humilité. L'humilité de ce disciple qui laisse Pierre, figure d'autorité de l'Église, passer devant lui. Souvent, je peux trouver cela une application que je vous dis tout de suite. Souvent, par exemple, on peut avoir des inspirations prophétiques, peut-être, mais à un certain moment, celui qui devra attester de la véracité et de la légitimité de ce que l'on perçoit, de ce que l'on ressent, c'est Pierre, c'est l'Église, l'autorité de l'Église, le premier des apôtres. Donc, humilité de laisser passer, alors qu'il est arrivé le premier, laisser passer Pierre devant soi. Le disciple bien-aimé fait découvrir le sens de la foi. Qu'est-ce que voit ce disciple, comme Pierre d'ailleurs, en découvrant le tombeau, eh bien, il ne voit rien. Et s'ils vont des linges roulés à terre. Ceux qui auront attesté de la résurrection, les premiers, on verra Jésus se manifester, bien sûr, à plusieurs reprises, ressusciter à ses disciples. Mais la première attestation de la plus haute autorité de Pierre et de Jean, eh bien, c'est de ne rien voir. Ils ne voient pas la réalité Mais il voit des signes. Linge, suaire, roulé à terre. Qui derrière l'absence suggère la présence. Oui, il vit et il crut. Vous voyez, comment dans cette simple expression très ramassée, hein, quelque chose d'essentiel qui nous est dit sur la foi, hein, sur la naissance de la foi. La foi, elle est liée au regard. Donc c'est notre regard, notre foi qui change notre regard. Souvent notre regard, il est lié à l'apparence, hein, à l'extériorité. Mais la grâce de la foi, c'est de percevoir à travers des signes ou même à travers des absences, une présence. Voir au-delà des apparences. Tout au cours de l'Écriture, on voit la place de la vision. Hein. Dieu vit que cela était bon, ou beau ou bon, suivant le texte. C'est le début de la Genèse, dans la création. Et puis, dans le livre de l'Exode, Dieu vit la misère de son peuple. Dieu porte un regard sur le monde, un regard que l'on doit nous-mêmes adopter. Être chrétien, c'est accueillir le regard de Dieu sur le monde. C'est un regard théologal, un regard de foi, d'espérance et de charité. Aussi, dans l'Évangile, on voit à plusieurs reprises le regard de Jésus. Dieu le regarda et l'aima, à propos du jeune homme riche. Jésus vit les foules qui étaient comme des brebis sans berger. Un jour, je me trouvais curé d'une paroisse à Paris. À la sortie de l'église, il y avait un SDF mendiant. C'était l'hiver. Et alors, je me tourne vers lui et je lui dis, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ? Je lui dis, alors il disait rien, je lui dis, c'est le froid? Non. C'est la faim? Non. Qu'est-ce que c'est? Il m'a fait cette réponse. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de ne compter que comme une merde. De ne compter pour personne. De ne pas, en fond, être reconnu. De ne pas être vu. Vous savez, c'est l'histoire du bon samaritain. Le lévite et le prêtre, il voit pas cet homme roué de coups à terre, gisant. C'est un étranger, un samaritain, qui va le voir, l'accueillir, le porter sur ses épaules et le conduire jusqu'à cette auberge qui figure l'église. C'est Bernadette à Lourdes qui disait, à propos de la Vierge, elle s'est adressée à moi, elle m'a parlé, elle m'a vu comme une personne. Eh bien, le propre du disciple bien-aimé, c'est de nous faire rentrer dans une foi qui nous rend la vue, qui nous permet de voir la présence de Dieu là où apparemment elle n'est plus visible. Et de voir à travers des signes cette présence, pas n'importe lesquels. La présence de Jésus est effacée, elle passe par les sacrements, elle passe aussi par la charité, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Jésus s'identifie aux petits, aux pauvres. Voilà donc le cœur à cœur, du corps à corps et à travers ce corps de percevoir les signes de la présence de Dieu. Voilà l'acuité du regard, la perspicacité de la vision que permet la foi. Qui permet de détecter Dieu là où il n'est pas tout à fait visible, là où il n'est pas encore. L'Église existe pour ce qui n'est pas encore l'Église. Et puis il y a une autre scène où l'on parle du disciple bien-aimé. C'est au chapitre 21, l'apparition au bord du lac de Tibériade. C'est la pêche miraculeuse. Jésus ressuscité se tint sur le rivage sans qu'ils le reconnaissent. Les disciples ne le voient pas. Et ils entendent pourtant la voix de cette personne qu'ils ne reconnaissent pas comme étant Jésus, qui leur dit, qui les invite à jeter les filets. Et les filets, s'exécutant, les filets sont remplis de poissons. Et c'est là que note l'évangile de Jean, chapitre 21. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Alors juste après, il y aura la scène, vous savez, les triples interrogations de Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Et puis finalement, à la troisième fois, Pierre répondra à Jésus, mais tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, comme le disait, saint Augustin, bien cette triple confession le guérit, hein, de triple reniement. Et la troisième fois, quand on sert le texte grec, on voit que l'interrogation de Jésus porte sur, non pas l'agapé, c'est-à-dire l'amour divin, dans son origine divine, mais sur l'amour d'amitié. Est-ce que tu m'aimes d'un amour infini, en quelque sorte, aurait dit Jésus dans les deux premières interrogations. Et puis la troisième, Jésus va plus loin, mais est-ce que tu m'aimes d'un amour d'amitié ? Jésus se met en quelque sorte à la portée de Pierre, de ce que Pierre, qui a trahi le Christ, qui l'a renié, s'est écarté de lui. Jésus se met à la capacité d'aimer de Pierre, là où il peut se rendre pour le recevoir et pour lui dire en fin de compte, suis-moi. Cette scène se passe donc au bord du lac de Tibériade. Vous savez que la topographie est très importante dans l'écriture. Hein. Vous savez que le premier appel des disciples de Jean et de Pierre s'est fait au bord du lac de Tibériade. Hein. Et donc c'est en quelque sorte, là aussi, Jésus ressuscité interpelle Pierre sur le lieu du premier appel. Hein. Il vient guérir sa mémoire qui était blessée par sa trahison. Mais c'est aussi donc non seulement le lieu du premier appel, Tibériade, mais il devient dans cette scène le lieu du premier envoi, de la première annonce. C'est le Seigneur. Ces mots qui jaillissent du cœur du disciple bien-aimé, c'est le Seigneur. Souligne que le disciple bien-aimé qui est rentré dans le cœur du Christ, qui a accueilli de ce cœur le mystère de l'Église en accueillant Marie, eh bien, est appelé à être un témoin, à témoigner. Le disciple bien-aimé passe de la foi qui change le regard à la foi qui annonce Jésus. Le disciple bien-aimé, qui était le disciple de l'intériorité de Jésus, devient le disciple de l'attestation de Jésus. Une attestation adressée d'abord à Pierre, à travers Pierre, c'est à l'Église. La première annonce, c'est pour ça qu'on va chaque dimanche à la messe, et même plus encore, si on peut aller plus souvent, c'est de se laisser réentendre, réannoncer, messe après messe, dimanche après dimanche, c'est le Seigneur. Le problème de l'annonce de la foi, que l'on pose souvent en termes de pertinence de notre message par rapport au monde contemporain, de manque de zèle. D'abord, le point de départ de l'annonce, c'est qu'il doit être vécu à l'intérieur de l'Église. La première annonce, on l'appelle le kérigme, doit être vécu à l'intérieur de nos communautés. C'est pour cela qu'on va à la messe, pour réentendre c'est le Seigneur, pour réalimenter notre foi, pour la revigorer, la renouveler. C'est parce que nous aurons des chrétiens plus fervents que nous aurons des chrétiens plus attrayants. C'est une vie convertie qui peut convertir les autres, si je puis dire. La conversion, bien sûr, dépend du Seigneur, ultimement. C'est en voyant quelqu'un qui a rencontré d'une manière personnelle et décisive le Seigneur qui a quelque chance que, par son témoignage, par ses mots, même simplement sa présence, il puisse rendre compte de l'espérance qui est en lui, comme le dira l'apôtre Pierre. Oui, c'est le Seigneur. Et je crois que le message du disciple bien-aimé dans ce passage, c'est nous chrétiens, de nous laisser réévangéliser sans cesse, de réentendre le message de la résurrection célébré à chaque Eucharistie, le message pascal, de le réentendre, de le réassumer, de se le réapproprier pour que nous soyons brûlants du désir de l'annoncer aux autres. C'est le Seigneur, de le nous dire les uns aux autres. Réflexion d'un paroissien, quand j'entends mon curé, je suis impressionné par les hauteurs de sa pensée, sans doute, mais quand je le vois vivre, je suis rassuré. Voilà. Alors, il faudrait que nous soyons toujours un peu plus vibrants et vivants de ce message du salut, ce message pascal qui traverse nos vies. Et puis, dernière scène du disciple bien-aimé, où voit apparaître ce nom, c'est au chapitre 21, hein, encore, à la fin de l'épisode de la pêche miraculeuse, après le nouvel appel de Pierre où Jean lui redit « Suis-moi », il est dit ceci, se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. Vous voyez comment le disciple bien-aimé continue, à travers cette expression, Pierre voit marchant à leur suite. Hein. Ça veut dire vraiment, le disciple se met à l'école de Jésus et de Pierre qui marchent ensemble. Donc Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui durant le repas s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus « Seigneur, et lui ?» Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Donc voyez la vocation du disciple bien-aimé, c'est de demeurer. De demeurer. Il y a une expression en français qui n'est pas très positive contre quelqu'un, on dit c'est un demeuré. Quelqu'un qui est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? On voit que la vocation de Pierre, c'est de suivre le Christ. Et la vocation de Jean, de disciple bien-aimé, que j'identifie à Jean, mais c'est de demeurer. Demeurer, je dirais, c'est pour moi trois choses. C'est d'abord être avec, comme Marie fut avec Jésus. Elle l'a accueilli dans son sein, elle l'a accompagné dans son itinéraire depuis Cana, le premier miracle de Jésus qui marque son entrée dans la vie publique jusqu'à sa mort sur la croix. Elle était là. Demeurer, c'est être avec. Demeurer, c'est aussi faire mémoire. Pour sans cesse faire mémoire, je distinguerais la mémoire du souvenir. Le souvenir peut avoir quelque chose de nostalgique. On se rapatrie dans le passé, on regarde dans le rétroviseur de l'histoire. Hein. La mémoire, c'est se servir du passé, se rappeler le passé pour nourrir le présent. Pour nous permettre parfois de survivre, nous permettre d'avancer, faire mémoire. On peut dire que être avec, c'est la figure de Marie, et faire mémoire serait la place de Pierre, à travers le ministère apostolique qui nous dit l'actualité, en se rappelant les paroles de Jésus, l'actualité de la présence de Jésus. L'Église est mémorielle, elle fait mémoire à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire. Pour en dire, comme le disait le curé d'Ars en brandissant l'hostie, il est là. Et puis, demeurer, non seulement c'est être avec, c'est faire mémoire, mais c'est espérer, être tourné vers la venue glorieuse du Seigneur. Demeurer dans l'attente de son avènement, célébré à chaque Eucharistie. Il y a trois mots qui rendent compte de cette triple dimension du demeurer. Demeurer, j'ai dit, c'est être avec, c'est Marie, c'est Magnificat. Demeurer, c'est faire mémoire de la Pâque du Seigneur, c'est Alléluia. Demeurer, c'est espérer, c'est Maranatha. Bien, Seigneur Jésus. C'est Paul VI qui disait que le chrétien habite ce monde à partir de son avenir. C'est le déjà là. Christ est déjà là, en même temps, son avènement dans toute la dimension, l'englobe toute l'histoire et dans le pas encore. Déjà là, pas encore. Eh bien, le chrétien habite ce monde, disait Paul VI, à partir de son avenir. L'avenir de l'humanité, l'avenir de chacun d'entre nous, l'avenir de l'homme avec un grand H se trouve dans le Christ et pas ailleurs. Nous devons nous rappeler cela à un moment où parfois dans une culture de crise dans laquelle nous sommes, on perd l'espérance, on est un peu dans le mal-être, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a énormément de menaces qui pèsent dans tous les niveaux. Aussi beau politiques, sociaux, etc. Et puis la médiatisation renforce cette grisaille. On a l'impression que qu'est-ce que demain, ce qui va arriver à notre monde, qui est menacé dans son écologie, dans ses fractures, etc. Eh bien, nous rappeler que pour nous, l'espérance, plus qu'un espoir, l'espérance, elle a un visage, celui du Christ. Et la figure du disciple bien-aimé qui s'est penché sur le cœur du Christ, bien, c'est celui qui nous aide à cultiver dans notre mémoire la présence vivante du ressuscité, mais qui va venir encore. C'était Fénelon qui disait de l'espérance, attendre Dieu de Dieu. Attendre Dieu de Dieu. Voilà, alors nous demandons à ce disciple bien-aimé de nous aider à entrer à travers ces cinq tableaux dans ce chemin, vous voyez, qui, partant de l'intimité du Christ, nous ouvre à l'eschatologie, c'est-à-dire à la vision d'un monde nouveau. Être chrétien, c'est, je reprends la phrase de Paul VI, habiter notre monde, vivre dans le monde et pas ailleurs, mais en cultivant l'espérance, c'est-à-dire la certitude que ce monde est appelé à un accomplissement, un plein déploiement de lui-même dans le Christ ressuscité, lui qui vient récapituler toutes choses en lui et par lui. Seigneur, je termine par une petite prière. Seigneur, tout au cours de ces heures, ces journées passées ici à Paray-le-Monial, donne-nous la grâce de nous mettre à l'école du cœur de Jésus en suivant le disciple bien-aimé. Nous aussi, en reposant dans l'adoration sur le cœur de Dieu. Nous aussi, en suivant le disciple, en accueillant l'Église qui est au cœur de ce cœur. Qui est l'épouse du bien-aimé, notre maison, notre patrie. Donne-nous aussi, en suivant le disciple bien-aimé, de renaître dans notre foi pour le contempler du haut de la croix, pour percevoir ces fleuves d'eau vive, cet amour qui jaillit de ce cœur, son esprit, sa vie, pour irriguer nos propres existences. Fais de nous aussi des témoins, comme le fut le disciple bien-aimé, de cet amour infini auprès de notre humanité. Et donne-nous d'entrer dans sa vocation de disciple qui est d'espérer, d'être des témoins d'espérance auprès de notre monde qui est fait pour Dieu, pour le connaître, l'aimer et le faire connaître. Amen.
Merci beaucoup, Monseigneur. Tout au long de ce jour, nous pourrons, suivant l'appel du Seigneur, nous mettre sur une des positions du disciple bien-aimé, voir là où le Seigneur nous attend. Merci de nous avoir introduits dans cette journée. Je vais laisser la parole à Delphine, qui a quelques ouvrages à vous présenter pour la librairie, et où vous pourrez aussi, dont vous pourrez aussi profiter tout au long de ce jour. Alors, merci à ceux qui ont fait le sacrifice d'une chaise pour choisir le sol pendant cet enseignement. Nous rendons grâce à Dieu d'être nombreux et de remplir à chaque fois les salles dans lesquelles nous allons. Et donc, nous aurons la messe au dôme à 11h, donc à l'extérieur, sur les prés d'herbes fraîches. Mais c'est biblique. Donc, vous aurez, après ces temps d'annonce, vous aurez un temps de pause. Vous pouvez aussi retrouver en bas ou dans les salles de l'abri, je ne sais plus où ils sont situés, ceux qui veulent récupérer le livret du pèlerin, qui aide aussi à, qui fait partie aussi de cette aide pour couvrir les frais de ces différents événements que nous proposons tout au long de l'année. Merci à vous. Alors, je vais commencer par le coup de cœur des chapelains. Voilà, on va passer aux nourritures matérielles avant de présenter d'autres choses spirituelles. On a fait le choix de faire une confiture unique qui n'existe qu'à Parel Monial. Trois parfums, vous voyez déjà la couleur, hein, ça vous fait penser tout de suite au cœur de Jésus. Pêche de vigne, cassis, framboise, c'est excellent. C'est excellent et à manger, bon, vous verrez votre diabète, mais n'hésitez pas. Donc elle est en vente à la librairie aussi et elle aide notamment à financer tout le projet Paris 2020, la restauration des salles. Vous voyez qu'il manque quelques chaises. Il est prévu que très bientôt on restaure cette salle. Et donc tout votre soutien pourra nous y aider et même une confiture peut nous y aider. Bon, alors c'est sûr qu'il ne nous faudra pas seulement 1 million de pots de confiture. Hein. Si vous voulez donner un don plus généreux, vous pouvez aussi. Merci.
Bonjour à tous. Donc la librairie est ouverte pendant toutes les fêtes du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, samedi et dimanche toute la journée, elle est fermée pendant la messe de 11h aujourd'hui. Donc vous pouvez trouver de nombreux livres, DVD, CD et objets religieux en lien avec le Sacré-Cœur. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 livres. Donc tout d'abord, le livre du père Benoît Guédas qui vient de vous parler, qui est le recteur du sanctuaire de Parel Monial. Donc, le réveil de la miséricorde, l'appel du Sacré-Cœur de Jésus à Parel-Monial. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent bien connaître le message spirituel de Parel-Monial, ce qu'a dit Jésus à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Donc, je vous invite tous à découvrir ce livre à la librairie. Ensuite, un livre sur Sainte Marguerite Marie à la Coque, Vie et révélation écrite par elle-même. Donc, c'est aussi pour bien connaître le message spirituel de Parel-Monial et la vie. Plus précisément de Sainte Marguerite Marie à la Coque. Enfin, en cette année jubilaire, donc de la miséricorde divine, pour comprendre l'historique de cette dévotion de la miséricorde, qui est Sainte Faustine, pourquoi il existe plusieurs tableaux, qu'est-ce que l'heure de la miséricorde, quel est le chapelet de la miséricorde et pourquoi Jésus nous demande de le réciter. Je vous invite à lire le livre d'Hélène Dumont, La miséricorde divine, une grâce pour notre temps. Là, vous aurez toutes les réponses à vos questions sur cette dévotion. Vous pourrez trouver aussi à la librairie de nombreux livres pour enfants, pour les cadeaux, des communions, des baptêmes qui arrivent en ce moment dans vos familles. Et bien sûr, de nombreuses images sur le Sacré-Cœur et la miséricorde divine. Voilà, je vous souhaite une bonne fête du Sacré-Cœur. Merci.